vas-tu ?
Bah, très bien, écoute, très heureux d'être ici, de ouais. faire ce petit projet que tu as lancé. C'est une super bonne initiative. On regarde un match, on parle de foot,
ouais.
on voilà.
On est tranquille, voilà, à la cool. Et c'est le principal, effectivement. Et donc, on va se retrouver, effectivement, pour commenter. Alors, à la cool, tranquillement, ne vous attendez pas, je le répète en permanence, auditeurs et auditrices, à des analyses extrêmement poussées, à une composition d'équipe extrêmement bien étudiée. Alors, Maxime, à mes côtés, va pouvoir connaître un petit peu ce qui se passe pour l'équipe d'Espagne, notamment. Il a bien étudié, il est avec son maillot de Carles Puyol, du Barça.
Ouais.
Maillot de quelle année? C'est 2006-2008?
Ça c'est 2008 je crois.
2008. Ouais. Oui, avec le fameux logo ouais. UNICEF.
C'est ça. Ouais, je l'avais reconnu.
Ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'était assez... c'est la première fois à ce moment-là que le Barça mettait un sponsor sur son maillot, sauf que c'était pas un sponsor qui les rémunérait,
ouais.
c'était eux qui donnaient une somme d'argent sur la saison pour l'UNICEF et pour faire apparaître l'UNICEF sur son maillot.
Ouais,
ouais, tout à fait. Alors,
par contre, on est d'accord, c'est une contrefaçon.
Alors, ouais. Ouais, c'est vrai,
je sais pas, on me l'a donné.
Ah, ouais,
on me l'a
ouais.
donné, c'est vrai que je sais pas. Ouais, bah, je pense en vrai.
Il vient du marché alors.
Et alors toi, c'est une contrefaçon ou pas toi?
Non,
que
moi
tu
c'est
as,
pas
non
une contrefaçon, donc j'ai un maillot de Toronto.
Ouais.
Toronto qui joue en MLS et je ouais. crois que c'est la saison, c'est les deux saisons parce qu'en MLS les maillots tournent pour deux saisons à chaque fois. Et là c'est en 2013 et 2014, version joueur, manche longue, petit supplément qui fait toujours plaisir.
Alors Steven, toi tu as un maillot très particulier,
ouais,
c'est pas un maillot de foot.
Ah si, c'est un lien, ouais, ouais. T-shirt de Malcolm X.
Il était plus en lien avec une star de la boxe notamment, hein, certains.
Oui,
ouais.
Mais voilà, mais lien avec les États-Unis, je me suis dit je ressors mon t-shirt de Malcolm X. Justement pour ouais. être le gars qui va revendiquer.
Bon, on va parler de tout ça parce qu'effectivement rien que vos maillots aussi peuvent nous raconter aussi votre histoire avec soit le foot ou soit avec les États-Unis notamment. Donc ça va être très intéressant, mais un petit point quand même sur ce match entre l'Espagne et le Cap-Vert. Sur notre écran, ça vient de commencer depuis exactement 45 secondes. Voilà, vous pouvez essayer de vous caler sur votre écran si vous voulez suivre le match exactement en même temps que nous. On va pas suivre action après action exactement dans les commentaires. On va voir un petit peu ce qui se passe en gros. Occasion. Alors, pronostic les garçons, à mon avis, je pense que vous allez pencher vers une équipe en particulier.
Bah, on sait que ça va être dur pour l'Espagne, hein, qui vont le voir cravacher et qui n'auront probablement pas beaucoup le ballon.
Des joueurs de très haut niveau, effectivement, au Cap-Vert.
L'Espagne, c'est ceux en rouge.
Les Espagnols. Oui, c'est ceux en rouge. Ouais. Okay, bravo, Steven. Ouais, voilà. Là, on a toute l'expertise condensée en une phrase.
J'ai bossé, moi.
Effectivement, t'as bossé. Alors, du coup, en score, peut-être pronostic, est-ce que vous imaginez une grosse résistance quand même du Cap-Vert, parce que ça peut arriver en Coupe du Monde que des petites nations puissent quand même aller arracher pourquoi pas même un match nul ou une défaite très avec un faible nombre de buts d'écart. Est-ce que vous imaginez que le Cap-Vert va aller chercher ça ou alors est-ce que ça va être
ouais, moi je pense que ça va nous faire un France-Italie un truc comme ça. On est sur un match comme ça à mon avis.
Alors que Sébastien vient d'arriver à l'instant même et qui va prendre prendre le micro.
Je tente des trucs.
Mais tente des trucs, t'as raison. Comme un France-Italie, t'as raison. Alors, ouais. score fleuve ou pas, selon vous?
Bah, moi je vois plutôt un petit 3-0.
Un petit 3-0,
ouais.
Ok.
Parce que, disons, pas y a mal ce soir et je pense que pour déséquilibrer un bloc bas comme ça, ça va être un peu plus compliqué. Et du coup, je vois pas trop l'Espagne déséquilibrer vraiment cette défense qui peut être compacte. Après, on verra comment le Cap-Vert arrive à défendre sur... toute cette armada offensive de l'Espagne avec toute leur possession, tout ça.
Et alors voir. Philippe, toi, t'as un petit pronostic aussi?
C'est la première participation du Cap-Vert en Coupe du Monde.
C'est la première participation du Cap-Vert.
En général, c'est des scores fleuves quand même.
Ouais, on l'a vu avec Curaçao face à l'Allemagne, 7-1 pour l'Allemagne.
Ouais, 7-1, le 7 ouais, qui nous rappelle des bons souvenirs, enfin pas pour les Brésiliens.
Oui, l'Allemagne a l'habitude de mettre des 7-1 en Coupe du Monde. En 2014, effectivement, c'était une demi-finale où ils avaient... infliger la pire humiliation de toute l'histoire du Brésil en Coupe du Monde.
Chez eux en plus.
7-1 chez eux, effectivement. Les Brésiliens avaient complètement explosé. Et alors, nous avons Sébastien qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sébastien.
Bonsoir tout le monde.
Ouais, c'est vrai, bonsoir, on peut dire bonsoir, même s'il fait tôt. Ouais, ou t'es peut-être décalé un peu. Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Ton premier match de Coupe du Monde à suivre là, sur cette édition? T'en as déjà regardé d'autres?
Ouais, sur l'édition avec vous, oui, c'est le premier, mais j'en ai regardé d'autres. J'ai regardé hier soir pendant que vous commentiez. Et ouais, c'est...
Ouais, ok, ouais. Et alors toi, comment dire, ton, justement, j'aimerais un peu évoquer avec nos nouveaux invités, puisque justement Philippe et Sébastien nous rejoignent pour la première fois pour cette série Piètre Evolution Soccer. Est-ce que toi, Sébastien, tu as eu un lien plus ou moins étroit ou au contraire très distant avec le football, que ce soit dans ta jeunesse ou un petit peu plus proche, ou alors absolument pas?
Alors moi, non, pas du tout. Enfin, j'ai eu, comme tout le monde, des amis qui jouaient au foot. Et du coup, je venais compléter l'équipe parfois, bon gré mal gré.
T'étais choisi en dernier.
Voilà.
Alors tiens, justement, Steven, on te posait pas la question. Toi, t'étais choisi en dernier dans les équipes. Tu nous parlais de tes parties en bas de l'immeuble quand t'étais gamin.
Eh bah, ben, figure-toi que non.
T'étais un grand technicien ?
Non, j'étais gardien.
Ah.
Principalement, mais ouais.
C'est ça, ou en défense. Personne veut faire gardien, donc c'était non. Ça.
Ouais, c'est ça, ou j'étais à la défense, ou des trucs comme ça, mais okay. Attaquer, c'était compliqué, parce qu'il fallait tirer. Et comment dire que si tu veux aller chercher le ballon, bah envoie-moi à l'avant, mais par contre, si tu veux marquer des buts, bah laisse-moi à l'arrière, quoi.
Ok, ouais. C'est simple, voilà. La tactique, elle est simple avec Steven.
Non, mais ouais. Mais non, moi, je suis sur la défense, moi.
Ouais. Et alors Philippe, toi justement, c'est vrai que les fois on s'est rencontrés à Radio Campus, quand je te voyais passer pour préparer l'émission du Saint-Disque le lundi soir, je te voyais régulièrement avec divers maillots de MLS, donc la Major League Soccer, le championnat américain de football, de soccer. Quel est ton lien justement avec le football en général et le lien avec le soccer américain plus particulièrement dans ton histoire? Pourquoi?
Avec le foot en général, je pense que ça vient un peu gamin, donc avec notamment le jeu FIFA. Moi, je crois que le premier jeu de foot, ça a été FIFA 2001 auquel j'ai joué, et je trouvais ça formidable.
Vous m'aidez pas, cette série s'appelle PES, hein, je vous rappelle, hein, quand même.
Ah oui, mais alors PES 6 aussi.
PES, c'était mieux à l'époque.
C'est vrai qu'il y a une période aussi dont on parle jamais sur les jeux vidéo, si on peut faire un petit aparté, c'est les PES 2012 et 2013 qui étaient très très bons et très en avance par rapport au FIFA, sauf que FIFA, c'est tout à ce moment-là. Mais sinon, après, c'est revenu un peu à la fac.
Ouais.
Mon amour du football, et là j'ai découvert en fait justement ce championnat de MLS, je sais plus trop comment, mais en fait je voyais de plus en plus de vieux joueurs que j'avais connus gamins, notamment les Pirlo, Beckham, qu'on avait, les Beckham, les Pirlo qu'on avait vu par exemple à la finale de 2006.
Il y a joué, je crois,
aussi,
Henry,
et peu à peu, ils allaient là-bas, et c'est ce qui a fait que déjà je me suis rendu compte qu'ils faisaient vraiment des maillots qui étaient atypiques par rapport aux autres championnats dans le monde, et qu'en plus de ça, les maillots étaient vraiment beaux. Déjà, il faut savoir que toute la franchise est sponsorisée par Adidas. Il n'y a pas un club là-bas qui a un autre sponsor que Adidas.
C'est comme la NBA, en fait. La NBA aussi, ils ont un seul équipementier pour toutes les franchises.
Ouais. Et du coup, je ne sais pas trop comment ils travaillent dans le détail, mais enfin, ça se voit qu'il y a vraiment une identité au niveau des maillots qui est faite, mais que pour la MLS. Et peu à peu, c'est venu comme ça. J'ai commencé à regarder un peu le championnat. Comme j'ai pu. Au début, je trouvais des vidéos. On pouvait le regarder gratuitement sur des sites de paris en ligne. Puis peu à peu, avec la popularité qui a grandi, notamment via ces joueurs. Il y a eu Zlatan aussi qui est passé, plus la création de Miami en 2020 par Beckham, qui a beaucoup aidé à mettre de la lumière dessus. Peu à peu, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie évolution, en tout cas, dont on parle très peu, au niveau du football et de la manière dont les États-Unis sont en train d'amener ce sport.
Okay.
Alors pour le coup, je trouve que ce qui est un côté dommage avec cette Coupe du Monde, c'est que normalement, elle devait venir un peu célébrer tout ça et montrer tout le bon travail que fait les États-Unis depuis la création de cette ligue, donc depuis quasiment 30 ans.
Oui, qui s'était appuyé sur la première Coupe du Monde qu'ils avaient organisée en 1994.
C'est exactement ça. Ouais. Et donc la première saison a eu lieu en 96 et elle a été créée même en 93. Et faut dire que c'est vrai que c'est un bon travail depuis que
j'ai des maillots.
Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde et la manière dont elle est gérée, ça éclipse un petit peu tout ça, quoi.
Ouais. Mais tu parles de cette Coupe du Monde 1994. Moi, j'ai quelques maillots que je suis en train, parce que je suis en train de me collectionner des maillots rétro aussi de cette époque-là. J'ai le Romario Brésil 1994 et j'ai le Baggio Italie de 1994. C'était des maillots aussi très atypique, qui avait vraiment une vraie identité. Toi qui es fan de design, pas de design, mais de vêtements notamment, Steven, je suis sûr que tu trouverais ça assez intéressant, parce que je pensais à ce que tu disais au Kawaii Campus Club quand on fait notre émission sur les mangas et les animés.
Ouais.
T'es très, y a beaucoup de choses qui t'intéressent, notamment dans les vêtements et ce que ça raconte aussi des personnages, notamment. Et cette époque de 1994 de la Coupe du Monde, crois-moi, il y avait vraiment des maillots hyper stylés à cette époque-là.
Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Après, moi, je sais pas, j'y connais rien, mais.
J'ai le Romario à côté, je te montrerai.
Mais oui, après, peut-être ouais. Que ça amène des symboliques, ça parle d'un narratif, etc. Bah, typiquement, le maillot d'Haïti, hein, on en a parlé hier, mais.
Oui. Clairement, ouais.
Voilà, moi je trouve que c'est des choses intéressantes, tu vois, qui se retrouvent dans les designs des vêtements, mais après.
Bah d'ailleurs, justement, il y a le maillot de l'équipe de France très particulier pour cette année. Vous ne l'avez peut-être pas vu pour les néophytes du football, mais on a un maillot qui est vert. Très spécial, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que le vert ferait sur le maillot français? Comment?
Ils sont pas bleus habituellement?
Ils sont bleus.
Le maillot de domicile est bleu, mais le maillot extérieur est vert. Là.
Et alors pourquoi justement? Est-ce que tu peux l'expliquer, Maxime? Ouais.
C'est en référence du coup à la Statue de la Liberté. Donc comme la Coupe du Monde se passe aux États-Unis principalement, on va dire, pas que, mais du coup c'est pour faire ce petit clin d'œil.
Le cadeau de la France aux États-Unis, là, machin. Ça, ouais. Ouais, ok.
Et donc, ça raconte cette petite anecdote, cette petite histoire du lien entre la
France et l'Union. Moi, je trouve très beau ce maillot.
Moi, je suis pas fan, moi, je t'avoue. C'est mes goûts personnels. Je comprends l'idée, mais j'aime pas trop cette couleur-là, en fait. C'est trop atypique pour moi, pour la France. Mais genre,
Mais le terrain est vert, Thomas.
Le terrain est vert, ouais.
C'est vraiment un vert menthe clair.
Ouais, je sais pas si je peux vous le trouver sur internet, mais ouais. C'est pas le même vert que tu portes, par exemple, Sébastien, à côté de moi, ce vert presque kaki de l'armée.
Un t-shirt basique.
Ouais. Je connaissais pas ton attrait même pour l'armée, Sébastien.
Non. Wow.
Je le taquine parce que c'est pas du tout le cas. C'est absolument pas le cas. Mais ouais, c'est effectivement, ça raconte en tout cas beaucoup de choses. Et pour le niveau de la MLS aussi, notamment, on parle beaucoup. Sur le niveau du championnat de MLS, j'entends souvent dire que le niveau de ce championnat se situerait entre la fin de tableau de Ligue 1 et le début de tableau de Ligue 2 en termes de niveau global sur ce championnat. Tu en penses quoi, toi?
C'est difficile à analyser parce que ça s'est accéléré depuis l'arrivée de Messi.
Ouais.
En fait, il y a des classements qui sont sortis, notamment le classement, je ne sais plus quel classement, mais par rapport au championnat, au classement des championnats, où la MLS se retrouve dans le top 10 des meilleurs championnats du monde. Alors qu'il y a encore 3 ans, un peu avant que Messi arrive, c'était que dans le top 50, peut-être dans le top 30, mais enfin, il y a eu un bond vraiment stratosphérique depuis son arrivée.
Ah oui, à ce point-là. Ouais.
À ce point-là,
Messi a vraiment changé la MLS.
Cette image-là, j'avais pas l'impression que ça avait vraiment changé à ce point-là. Alors, la MLS.
Après, c'est aussi difficile à comparer parce que c'est pas du tout le même football qu'on a l'habitude de voir en Europe, encore moins en Ligue 1 et en Ligue 2.
Ouais.
Là, pour le coup, tout ce qui est, en fait. Il y a des défenseurs, globalement les défenses sont plus faibles, mais ça amène plus de spectacles et c'est beaucoup plus box-to-box que on met le bus en mode Atlético Madrid ou les trois quarts des clubs.
Dans le fonctionnement du sport aux États-Unis, parce qu'on connaît les ligues américaines, notamment de football américain, de baseball ou de basket, qui ont des règles très particulières par rapport au sport américain, c'est-à-dire des franchises dans une ligue fermée, pas de relégation et pas de promotion, des salary cap notamment pour équilibrer. En fait, un système, et ça va vous étonner, Steven et Sébastien, un système presque communiste dans certains points du sport américain. Non, mais je ne déconne pas, c'est-à-dire salary cap pour interdire en NBA, notamment pour interdire les équipes d'avoir trop de grands joueurs
trop rééquilibrés.
Ouais. Un système de draft notamment qui récompense les plus faibles équipes de la saison pour leur permettre d'aller choper les meilleurs jeunes joueurs qui vont entrer dans la ligue la saison prochaine dans un système de classement.
Il y a même aussi un système qui te permet de pouvoir entamer des discussions avec un gros joueur. Et en fait, ce système-là, il est mis en place par la MLS, par la Ligue en elle-même. C'est pas, par exemple, tel club qui va discuter avec Zlatan ou avec tel joueur. En fait, c'est la MLS qui va décider globalement de quelle franchise peut aller discuter.
L'État décide de tout. Enfin, en tout cas, là, c'est la MLS décide presque de tout et les franchises sont aux ordres. Quoi.
Ouais, alors après,
les franchises, pas des clubs.
Après, c'est toujours, il y a toujours la fin cash is king, c'est-à-dire que si une franchise veut vraiment tel joueur, elle va racheter ce droit-là à l'autre franchise pour pouvoir discuter avec.
Après, le salary cap aussi, c'est surtout payer de l'argent en plus. Quoi.
L'argent a toujours le dernier mot, quoi.
Bah, l'argent a toujours le dernier mot.
Voilà, surtout aux États-Unis.
En NBA, ce qui se passe en NBA notamment, c'est que le système de draft et le système de salary cap fait que tu peux pas faire n'importe quoi quand même. Sur sur les salaires de tes joueurs, tu es obligé de rééquilibrer souvent ta masse salariale. Et justement, le système de draft a permis à des équipes, bah, typiquement San Antonio Spurs par exemple, là où Victor Wembanyama, le joueur français, est arrivé il y a 3 ans, en fait, cette équipe, elle était dernière du classement de Conférence Ouest. 3 ans après, avec le système de draft, ils ont pu aller récupérer des jeunes joueurs extrêmement talentueux et bah, cette année, ils ont fait la finale de NBA. Donc ils ont battu même le champion en titre, etc. Donc c'est, en fait, c'est un système qui est quand même assez intéressant parce qu'il rebat les cartes et permet en fait aux équipes qui étaient très faibles de, en quelques années, pouvoir se reconstruire si elles font les choses intelligemment et avec une bonne stratégie.
C'est vrai qu'à première vue, c'est un système qui paraît, pour nous en tout cas, européens, très contraignant, mais en fin de compte, c'est vrai que dans les résultats au niveau de la Ligue, bah, ça crée vraiment un suspense et ça rebat les cartes tous les ans. C'est-à-dire qu'il y a rarement deux fois un club qui gagne le championnat, et là-dessus, ça crée vraiment du suspense jusqu'au bout.
Vas-y, Steven.
Parce que du coup, ça, c'est vrai que ça contraste avec les échos que j'ai, où en gros, c'est PSG qui a les meilleurs joueurs, qui achète, qui met masse de thunes pour acheter des joueurs, pour être les meilleurs, etc. Ou plein de clubs comme ça qui achètent des joueurs pour avoir une équipe genre de gens cheatés. Et qui gagne tout le temps, en fait.
Exactement. Mais là, c'est justement ce système-là, il est différent, par exemple, si je prends sur la NBA. Par contre, les salaires, ils sont encore plus importants que dans le foot, dans le cas de la NBA. Là, c'est des salaires à... Ah ben là, genre le contrat, t'as des joueurs qui peuvent signer un contrat de 5 ans, et sur les 5 ans, le gars, il va toucher presque 1 milliard de dollars. Donc ça fait 200 millions de dollars la saison.
1 milliard
Steven qui...
C'est quoi cette histoire?
Ah mais oui, mais en fait, les salaires, ils explosent, non, parce que les droits télé...
C'est une pompe à fric aussi.
Et ouais, c'est...
C'est pour ça qu'ils ont mis les pubs, là, pour faire tous leurs trucs, là. Ok, d'accord, tout s'explique.
Dans le pays du capitalisme, système, ça reste le pays du avec de l'argent à gogo.
Ouais, c'est du communisme business, quoi.
C'est ça. Mais ouais, mais tu vois, en France par exemple, ou dans les championnats européens, dans le football, et ben t'as le système de promotion relégation, et en gros, bah, c'est de la méritocratie, quoi, façon droitière, c'est-à-dire t'as le plus d'argent, tu vas jamais être relégué.
La méritocratie, c'est de droite, voilà, de toute façon.
Oui, bien sûr. Bah là, clairement. Mais par contre, c'est vrai que le système de franchise aussi, il a une limite, c'est que justement, il ferme les ligues et il empêche de nouvelles équipes d'arriver dans le championnat, là où le système de promotion-relégation a permis à des équipes, par exemple, comme Auxerre, en Bourgogne, dans le trou du cul de la France, presque, de réussir quand même à monter et à devenir même champion de France. En basket, il y a Nanterre notamment, qui était une toute petite équipe qui est montée de division régionale jusqu'au titre de champion de France, par exemple. Ce système-là, c'est impossible de le voir aux États-Unis, par exemple, parce que les franchises font qu'on est sur un système fermé.
Bah, le seul moyen de rentrer dans cette ligue, c'est d'acheter
l'argent, ouais,
une franchise, et ça coûte entre, je sais plus, 250 et 500 millions d'euros pour pouvoir avoir le droit de...
Mais ça coûte cher, ouais.
Alors ça, ouais. Vraiment, bah, comme le reste, hein, ça a fait un boom, c'est-à-dire que c'est en pleine évolution. Mmh. C'est clair que par rapport à il y a 20 ans, une franchise, ça coûtait peut-être moins de 50 millions d'euros. Mmh. Donc là, ceux qui ont acheté une franchise il y a 20-30 ans aux États-Unis, aujourd'hui, ils sont bien, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Alors là, on a une petite action là quand même sur le côté droit, là, une tentative de centre espagnol, et finalement c'est encore dégagé par le Cap Vert. Alors on a beaucoup discuté, ouais. Maxime, je t'ai vu te concentrer un peu sur le match, ça fait 16 minutes maintenant que ça a commencé. Est-ce que tu peux nous donner un premier état des lieux, globalement comment ça se passe sur la physionomie du match?
Voilà, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de tir, de grosses occasions pour l'Espagne. On voit l'Espagne qui joue son football de possession. Ils font beaucoup de passes pour essayer d'étirer au maximum le bloc adverse, donc du Cap Vert, mais ils n'arrivent pas à trouver la faille entre les lignes. On voit beaucoup Gavi qui est ailier gauche sur la composition, mais qui vient dans le demi-espace au milieu et qui laisse la place au latéral gauche, au défenseur gauche du coup, sur l'aile pour aller faire les centres, les attaques. Mais sinon, il n'y a pas eu de grosses occasions. Parce que comme j'ai dit, sans Yamal, ça va être un peu compliqué de déséquilibrer ce bloc bien compact du Cap Vert. Là.
Alors, on ne va pas revenir sur la composition d'équipe en détail, parce que justement, ce n'est pas forcément le but de cette série d'aller trop dans les détails. Mais justement, sur ton œil expert aussi, et peut-être justement, Philippe, toi, tu regardes un peu aussi le football hors-dehors de la MLS.
Oui, complètement, bien sûr.
Je vais vous interroger, parce que moi, j'ai mon avis sur la question et je le dirai après. Parmi les joueurs, notamment de l'Espagne, lequel ou lesquels vraiment sont à surveiller selon vous sur cette compétition? Moi j'en ai un tout trouvé, hein, très honnêtement. Je vais te dire Pedri.
Ouais. Ouais, bah, pour moi, Pedri, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Après, c'est vrai que...
Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi.
En fait, c'est juste que comme le PSG vient de gagner deux fois la Ligue des Champions, les gens vont parler de Vitinha et Neves à juste titre, bien sûr.
À juste titre, hein, mais ça joue entre ces trois-là.
Non, hein. En fait, moi, je suis fan du FC Barcelone. Mais si je n'étais pas fan, j'allumerais ma télé quand même pour voir Pedri parce que ce joueur est magnifique à voir jouer. En fait, ce joueur, quand tu le vois jouer... ses conduites de balle, ses touches de balle, ses passes magnifiques, franchement c'est incroyable à voir jouer. Donc oui, bien sûr, Pedri est plus qu'à surveiller. J'espère qu'il fera une très grande Coupe du Monde jusqu'à qu'on rencontre la France peut-être.
Pour moi, je dirais que c'est presque, alors j'exagère peut-être un peu, mais vu l'influence qu'il a, ça serait presque un mélange un peu entre un Zidane et un Iniesta pour moi.
Ouais, c'est ça, il est beaucoup comparé entre ces deux joueurs, beaucoup... un mix entre les deux, c'est vrai que c'est
très intelligent, vraiment. Ouais. Toutes ses prises de balles, en fait, il fait toujours les bons choix. Il a toujours, enfin, on a l'impression que ce gars-là, il voit tout avant tout le monde.
Ça.
C'est un, enfin, je trouve ça absolument remarquable et c'est effectivement très beau à voir jouer. Philippe, est-ce que toi aussi c'est Pedri ou est-ce que t'as un autre joueur au niveau de l'Espagne?
Pedri, alors c'est marrant parce que je vous entends en parler et en fait, je me rends compte à quel point je l'ai très peu vu jouer. J'ai tellement du mal à m'imaginer que ce soit ce mélange Zidane, Iniesta et tout.
En fait, c'est Lamine Yamal, je pense aussi, qui concentre toute l'attention.
Déjà, oui, mais en fait, Pedri, il a aussi un problème, c'est qu'il est un peu fragile. Donc, il a beaucoup de blessures. Cette saison, il en a encore eu. L'année dernière, il en a encore eu. Il a raté pas mal de grands moments. Cette saison, il a été marqué par les blessures. Du coup, sa saison a été un peu moins bonne que celle de l'année dernière aussi. Mais c'est vrai que Pedri, quand on le voit jouer, franchement... On peut que adorer ce joueur, même si on n'est pas fan du FC Barcelone. Mais après, j'en ai un autre aussi, joueur. Moi, j'aime beaucoup Gavi. Alors, on l'aime quand il est dans notre équipe, on le déteste quand il est dans l'équipe adverse, parce que c'est vraiment un joueur hargneux qui vient être toujours dans les mauvais coups, toujours dans le répondant. Mais moi, j'adore ce joueur parce qu'il a vraiment du caractère et j'aime beaucoup son talent. Et c'est vrai qu'il lui aussi, il a eu beaucoup de blessures qui l'ont un peu éloigné des terrains. J'aimerais bien voir du coup sa Coupe du Monde, voir ce que ça donne.
Et on a un joueur français aussi, en tout cas franco-espagnol, dans cette équipe dans cette équipe d'Espagne, à savoir Emeric Laporte, qui a longtemps hésité entre la sélection française et la sélection espagnole, en fin de compte. Hein. Et il a décidé de choisir de porter les couleurs de la Roja, effectivement. Oui. Il va former avec Cubarsí la charnière centrale. Charnière centrale dans laquelle tu as confiance?
Quand on regarde les derniers matchs de l'Espagne, l'Espagne prenait beaucoup de buts, même s'ils gagnaient. Par exemple, on a eu un 5-4 contre la France là il n'y a pas longtemps. Mais c'était pas la même charnière centrale, c'était la défense avec Eysen et Viviane de l'Athletic Bilbao. Donc là, la défense a été complètement changée. Ces deux-là n'ont pas été appelés par Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol. Donc moi, je trouve que Cubarsí, il est très bon quand il y a un cadre avec lui. Donc avec Laporte, je pense que ça ira. Et Cubarsí est très jeune, on le rappelle, il a 20 ans. Donc à voir ce que ça donne. Après, Laporte a fait une pas très bonne saison. Il est revenu du championnat d'Arabie Saoudite là cet été en provenance d'Al Nassr pour aller à Bilbao. Donc il n'a pas fait une très grande saison avec Bilbao. Ils ont fini 12e, je crois, cette saison. Donc à voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être très intéressant.
Ok. Bah justement, avant de vous interroger aussi, et vous inquiétez pas, hein, Steven, Sébastien, on aura tout le temps de parler d'autres choses aussi de football, mais tant qu'à faire quand même, je prends les bonnes habitudes. Je vous cite à chaque fois ce petit guide assez sympa, le best guide de la Coupe du Monde de nos amis de SoFoot, pour présenter rapidement ces équipes que je n'ai pas eu le temps de travailler. Je fais très mal mon travail de journaliste, donc je me réfère à ce guide pour vous présenter un peu les deux équipes. Le fameux tableau noir, c'est ce qu'il raconte pour l'équipe d'Espagne, voilà ce que SoFoot explique. Vainqueur du dernier Euro, l'armada espagnole va traverser l'Atlantique pour tout saccager sur son passage comme au bon vieux temps. Vraiment ? À l'image de Fabian Ruiz, le ballon d'or Rodri a enchaîné les pépins physiques et son remplaçant naturel, Zubimendi, commence à tirer la langue tout comme Pedri, l'anticoagulant fondamental de la Roja. Ok, mais il reste le facteur X, Lamine Yamal. Problème, il s'est blessé avec le Barça et arrivera certainement au Mondial sans rythme, comme son pote Nico Williams qui sort d'une saison pratiquement blanche avec son club. Devant, Luis de la Fuente croise les doigts pour que le sous-côté Oyarzabal, son buteur par défaut, ait assez de gaz pour ne pas laisser sa place à Ferran Torres. Voilà pour le scénario catastrophe, car sur le papier, cette Roja a largement de quoi décrocher une deuxième étoile. Et la stat qui ne sert strictement à rien, c'est 6 comme le nombre de finales disputées par le bossu Mikel Oyarzabal. Le héros silencieux du dernier Euro a scoré dans chacune d'entre elles. S'il en dispute une septième cet été, vous savez dorénavant sur qui miser pour la cote du buteur en finale. et pour le Cap-Vert. Voilà ce qu'ils disent. Pour qualifier son pays à une Coupe du Monde, le sélectionneur Bubista a dû exploser son bilan carbone et convaincre des binationaux de tous bords, Irlande, Pays-Bas, Portugal, France, de porter le maillot des Tubarões Azuis, ce qui veut dire les requins bleus. Sur le terrain, cette diaspora brille essentiellement par son dynamisme, son intelligence tactique acquise dans les centres de formation européens et l'envie de faire chier tout le monde, à commencer par les plus grosses sélections. Pour résumer, le Cap-Vert pique essentiellement en contre, mais devra composer avec une profondeur de banc qui ne lui permettra pas de faire des folies. Dommage que Bubista n'ait pas réussi le tour de force d'enrôler le meilleur capverdien du tournoi, Nuno Mendes. Voilà. Et pour la stat aussi qui sert à rien, c'est zéro comme le nombre de joueurs qui évoluent dans le championnat du Cap-Vert. Voilà, parce qu'ils ont fait appel à beaucoup de joueurs effectivement qui ne sont pas capverdiens d'origine. Exactement.
Il y a beaucoup qui jouent dans le championnat portugais là. Ouais.
C'est toujours bien écrit dans SoFoot. Ouais.
Eh ben voilà.
Il y a eu un petit pic à Ferran Torres. Mais...
Ouais. Alors que là, justement, on est sur l'hydration break. Je pensais qu'on disait le cooling break.
Moi aussi, je pensais que c'était comme ça.
Ouais. Et ben voilà, la pause, pour la flotte, mais qui sert surtout à mettre de la pub, évidemment. Hein. États-Unis oblige.
Je suis en train de penser, en parlant de publicité, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse un petit signalement pour les pubs sur les paris sportifs.
Oui, c'est vrai.
C'est de la merde.
C'est de la merde, effectivement.
Et n'oubliez pas que parier, c'est une addiction.
Bah après, tout dépend, mais effectivement, ton contrôle, ça c'est clair et net. Que... En fait, c'est surtout que, c'est pas le fait que, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que toi, t'es clairement contre le fait même que ça existe.
Contre, oui, les paris sportifs.
Moi, au-delà même du fait simplement que ça existe, c'est surtout en fait la stratégie de communication qui est complètement débridée et qui n'est pas, encadrée véritablement. C'est-à-dire, tu sais, les fameuses pubs, mettre la daronne à l'abri.
Oui, parce que ça joue
vraiment clairement un public déjà
très jeune,
quoi. Ouais, et jeune,
hein. Et jeune aussi. Faut pas oublier que les paris sportifs, typiquement, c'était je sais plus le gars qui casse sa télé là qui faisait cette pub là. Et typiquement, c'est le genre de public de personnalité qui plaît aux jeunes. Donc c'est
n'importe aucun fond hein, dans l'analyse non. Précise. Hein.
Et donc je me souviens de cette pub parce qu'il y avait plusieurs choses qui m'avaient gêné. Déjà le fait que effectivement, du coup, on a un gars qui s'adresse à un public jeune. Donc c'est inciter les jeunes à aller dans les paris sportifs, alors que c'est interdit au moins de 18 ans, non, en théorie. Et l'autre truc, c'était le mépris de classe et honte qu'il y avait aussi, parce que c'était reprendre les codes des quartiers, de mettre la daronne à l'abri, c'est le truc.
Il y a eu des enquêtes, en fait, je sais plus si c'est Cash Investigation qui avait fait une grosse enquête sur les sites de paris sportifs, mais il y en a eu plusieurs.
Peut-être
Arte aussi, je me demande s'il n'y a pas eu une théma aussi.
Je sais que sur Blast aussi, il y a un truc sur les paris sportifs. Il y a plein de choses pour s'informer et comprendre pourquoi. Quoi, les paris sportifs,
là-dessus, auditrice, c'est très intéressant. En
fait. Et tombez pas dedans, si vous pouvez. Et sinon, faites-vous aider pour en sortir.
Exactement.
Le député du Loiret.
Juste devant ton micro.
Emmanuel Duplessis, le député du Loiret, qui voulait porter une proposition justement pour restreindre les publicités sur les paris sportifs.
Mmh. Ce serait pas plus mal.
Non, mais c'est clair. Il faut c'est clair et net.
Les publicités pour les cigarettes sont interdites. Je comprends pas pourquoi l'alcool et les paris sportifs sont encore autorisés.
C'est intéressant parce qu'en plus, moi je vois une sorte un peu d'hypocrisie par rapport à ça, ou dans le sens, en France, les clubs n'ont pas le droit d'être sponsorisés par des sites de paris sportifs et n'ont même pas le droit d'être diffusés avec de la pub venant de paris sportifs. Et c'est pour ça qu'il y a eu parfois des confrontations en Europe où certains clubs qui avaient l'habitude d'avoir des pubs pour les sites de paris sportifs ont été obligés de changer. Et en parallèle de ça, comme tu le dis, Steven, on est gavé de publicité pour les paris sportifs avec ces différents clichés sur la télévision.
Je suis sur un site, j'en ai un, voilà. Typiquement, je suis sur un site pour avoir la composition d'équipe, bim, voilà. Donc c'est clair, on est envahi par rapport à cela et c'est.
C'est assez paradoxal en fin de compte.
Pareil avec nous, on regarde beaucoup Willow sur YouTube et il commence chaque vidéo avec une pub pour un site de paris sportif.
Ouais, c'est clair. Ouais. Oui, parce que il y a des créateurs de contenu qui font du bon travail d'analyse vraiment footballistique, mais effectivement qui participent aussi à cela. Il y en a certains qui émettent quand ils font cette pub-là, parce qu'après on comprend aussi qu'ils sont obligés de se rémunérer et que ces partenaires-là leur permettent aussi de continuer à faire leurs vidéos qui sont intéressantes au demeurant pour les footballeurs. Mais c'est vrai que ça dépend en fait des créateurs de contenu, en fait, il y en a certains qui vont mettre le trigger, enfin le warning beaucoup plus en avant, pour le coup, sur attention aux addictions, faites-vous aider, etc. Il y en a d'autres qui le passent un peu sous silence.
Ça. Ouais. Et puis après, ça me pose quand même problème quand t'es youtubeur ou influenceur de manière générale, et que tu t'adresses à un public jeune et que tu commences à faire de la publicité pour ces trucs-là.
Ouais.
Peu importe que tu mettes un trigger warning, le fait est que tu te fasses financer par des paris sportifs, par des addictions, par des choses qui précarisent les gens, en fait.
Ouais.
Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont addicts et qui parient énormément d'argent,
ouais,
plus qu'ils ne peuvent. Et ça, typiquement, c'est des choses qui peuvent être suivies par des addictologues.
Oui,
c'est pas rien.
Ah bah oui, non, mais
c'est
là, on est arrivé à ce point-là, bien sûr. Hein. Par contre, malgré tout, je vous ferai une petite confidence. J'ai quand même regardé 2-3 vidéos de Mohamed Hennis juste pour me marrer, même si, alors par contre, c'est de la merde, hein, on est bien d'accord. Mais j'avoue que j'en ai quand même regardé une ou deux parce que voilà, il m'a fait.
Oui, on est tous tombés dessus par hasard.
Nul, voilà. Mais oui, non, il y a quand même beaucoup mieux, oui, en créateur de contenu.
C'est sûr, ouais.
Moi, comme je dis, j'en suis un qui s'appelle Alex De Castro, et j'ai pas l'impression que lui il fait autant de pubs par exemple que Willow pour les sites de paris sportifs.
Bah, Willow, ouais, c'est à chaque vidéo, ouais, parce que ouais, c'est son partenaire, ouais. Ouais, pour chaque vidéo, mais sinon.
Et une bonne vidéo qui parle justement des paris sportifs, il me semble, qu'il y a un OLG, ouvrez les guillemets, de Usul et Os Politique, qui parle des paris sportifs.
À l'époque où ils étaient à Mediapart, hein,
c'est
je précise.
Ça. Et la vidéo est sur YouTube et a fait une vingtaine de minutes, donc si vous voulez vous informer rapidement.
Ah bah là, on vous donne plein de sources là pour vous informer. Alors ça fait depuis 30 minutes et on parle quasiment pas de ce match, tout simplement parce que c'est de la merde pour l'instant. Il y a rien qui se passe.
Rien,
non, il y a rien qui se passe. Excusez-moi. Voilà. À un moment donné, on essaye de s'occuper comme on veut parce que oui, on est presque à 30 minutes de jeu, 0-0. Et alors juste, je vais revenir avant de te laisser la parole, Maxime, parce que justement, tu peux peut-être nous dire ce que t'en penses sur les statistiques qui sont absolument affreuses. Non, mais c'est vrai quoi. 5 tirs pour l'Espagne, mais un seul tir cadré. Une possession de balle complètement stérile pour eux pour l'instant avec 67%. Et alors, expected goals, pour rappel, c'est les buts attendus, c'est pour mesurer notamment la qualité des occasions de but des équipes. On est à 0,15 buts pour l'instant pour l'Espagne, ce qui est assez ridicule quand on attend une énorme domination de la part de la Rora par rapport au Cap-Vert. Hein. Ouais.
Bah, moi, je regarde le championnat espagnol toute la saison, particulièrement le Barça, et vraiment, on voit au moins 75% des équipes qui jouent bloc bas. Donc quand on regarde le Barça qui joue un football de possession face à des équipes bloc bas où ils n'arrivent pas à marquer pendant 90 minutes, on est vraiment dans ce type de match là ce soir. On a un Cap-Vert qui défend à juste titre, ils n'ont pas forcément les armes pour jouer ce football de possession ou garder une grosse qualité de pression.
Ouais, grosse action, ouais, peut-être grosse action espagnole, peut-être, mais non, encore une fois, c'est tué dans l'œuf. Là,
ils n'ont pas sa qualité de pression aussi. Comme on a pu le voir avec d'autres matchs comme le Japon hier ou le Maroc samedi. Mais non, c'est sûr que le Cap-Vert, c'est leur première participation à leur Coupe du Monde. Ils vont devoir jouer comme ça et gratter un maximum de points pour espérer une qualification, peut-être en étant dans les meilleurs troisièmes aussi. Mais ouais, c'est sûr que là, du coup, c'est pour le spectacle, c'est vraiment dommage, mais je suis habitué, je m'attendais à ça.
Les experts du football, quand même, à mes côtés, est-ce que... Où est-ce que l'on situe cette équipe d'Espagne selon vous parmi les prétendants au titre? Est-ce qu'ils font partie vraiment du tout premier chapeau avec par exemple la France, le Portugal, ou est-ce qu'on les met un petit peu derrière? Où est-ce que vous les situez?
Moi je les mettrais derrière.
Derrière la France, le Portugal
chapeau,
Tu mettrais qui dans ton premier chapeau toi?
Je pense que nous on a un arsenal offensif. On a tout. On a trois équipes types qui pourraient gagner la Coupe du Monde.
Ça t'as beaucoup de trucs sur internet qui le montrent. L'équipe numéro 3 de l'équipe de France, l'équipe C de l'équipe de France pulvériserait un grand nombre des équipes certainement. Enfin en tout cas pourrait se qualifier et aller très loin dans cette Coupe du Monde.
Ouais. Après c'est vrai qu'il y a le Portugal aussi, mais j'ai peur pour le Portugal moi, je pense que Ronaldo, fallait déjà qu'il s'arrête. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il doit s'arrêter.
Ah,
quoi.
Oui,
c'est trop, en fait. Et j'ai l'impression qu'il déstabilise beaucoup ce groupe.
Ouais, Steven, ouais.
Non, je demandais si Ronaldo était de retour.
Ouais, c'est pas qu'il est de retour, c'est qu'il est toujours là.
À 75 ans, il est là.
C'est ça, ouais.
Et
un addict au sport, ce mec-là, en fait. Hein, il a vraiment...
Il a 41. Il a quand même 41, quoi. C'est assez fou,
C'est plus Ronaldo le Brésilien qui s'approcherait presque. Non, j'exagère, il est encore...
Hier, on n'a pas parlé d'un joueur japonais qui est encore en activité, qui a 54 ans, je crois, Miura.
Kaze Miura, qui a inspiré, d'ailleurs, le personnage de Captain Tsubasa...
Olivier Tom.
Olivia Tom dans Olivier Tom,
on n'a pas parlé hier, c'est vrai que j'avais complètement oublié. C'est vrai qu'il est toujours en activité, mais bon, c'est vrai. Lui, il n'est pas à la Coupe du Monde avec le Japon, mais non, c'est vrai que Ronaldo, pour moi, il va déséquilibrer cette équipe, surtout qu'il part en étant titulaire.
Ouais, et prend trop de place.
Et on le voit, on voit la différence quand le Portugal joue avec lui et joue sans lui. C'est sûr qu'il y a vraiment une différence. Parce que Ronaldo, c'est plus du tout le même joueur qu'il y a quelques années. Donc,
non, c'est sûr.
Et on rappelle, il n'a jamais marqué en phase éliminatoire de Coupe du Monde. Il a toujours marqué juste seulement en phase de groupe.
Ouais.
Donc c'est vrai que...
Ouais, c'est vrai. Hein. Là, c'est là que le bât blesse vraiment dans son duel avec Messi. C'est que Messi, la seule chose qu'on pouvait lui reprocher... Parce que moi, je vous avoue, pendant très longtemps, j'ai pas mis Messi en numéro 1 all-time. Mais depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde 2022, pour moi, c'était le seul truc qui lui manquait. Et en plus de ça, il a mené cette équipe de main de maître.
Il lui manque la Coupe de France, hein, quand même. Hein. Il n'a pas gagné. Hein.
il n'a pas gagné de titre en MLS pour l'instant aussi avec
si, il a gagné l'an dernier.
Il a différentes coupes aussi. Il a dû avoir 2-3 trophées au moins, je pense.
Ouais, il a eu le trophée majeur, donc la MLS. Ouais. Il a eu aussi le trophée qui récompense l'équipe qui a le plus de points sur la saison. Donc ça, il l'a eu en 2024. Ouais. Et dès sa première saison, il a gagné le trophée qui s'appelle Leagues Cup, qui est des confrontations entre équipes de MLS et équipes mexicaines de mémoire.
Okay.
Et il faut quand même le gagner parce que, en général, les équipes sud-américaines, jusqu'à il y a 4-5 ans, elles étaient vraiment au-dessus des équipes américaines. Et là, ça a tendance un peu à s'inverser.
Je reviens quand même sur l'âge de Cristiano Ronaldo. 41 ans actuellement, oui. Effectivement. C'est à peu près l'âge de LeBron James, hein, je pense, hein, qui joue aussi encore en NBA. Je crois que LeBron, il doit avoir 41 ans aussi.
Puis pareil.
C'est n'importe quoi. Alors, par contre, Kazu Miura, 59 ans.
Ah, ça, ouais,
le gars, en fait, est encore 54, professionnel. Mais... Il joue encore en deuxième division, je crois, au Japon. Ouais. Il a joué pendant une bonne partie de sa carrière aussi au Brésil, notamment. Mmh. Et ouais, c'est un joueur vraiment de légende qui a démarré sa carrière professionnelle en 1980. Je n'étais pas né quand ce type a commencé à jouer professionnel et il joue encore professionnel aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Ce gars-là.
Et ouais, puis le Portugal aussi, ils ont d'autres faiblesses au niveau de la défense. Il y a Nuno Mendes, mais avec ils mettent Semedo en latéral droit. Pour moi, il a fait son temps aussi. Ouais. Et la défense centrale, Rubén Dias, c'est pas aussi fort qu'il y a quelques années, et on verra aussi les jeunes qui associent avec lui sur cette défense. Mais c'est vrai qu'ils ont un très gros milieu de terrain avec Vitinha, Neves, Fernandes.
Ça, c'est un sacré milieu de terrain.
Mais pareil sur les ailes aussi avec Leao qui fait de très mauvaises performances avec l'AC Milan. C'est un match sur 10 réussi, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur le Portugal après, à voir ce que ça va donner. Mais moi, je ne les mets pas dans mon premier chapeau non plus.
Ouais, Steven.
Non, c'est juste, ça me fait rire parce qu'on a un match Espagne-Cap-Vert et on parle du Portugal. Vraiment, on sent que le match n'est pas intéressant.
Non, c'est sûr.
Moi qui n'y connais rien, j'ai l'impression que c'est pas intéressant.
Alors, je vais te lancer. Je sais pas si tu as des trucs à dire éventuellement sur le Cap-Vert ou sur l'histoire du Cap-Vert, mais avant de te lancer, juste un petit big up quand même, parce que ça y est. Notre post Instagram Code Lyoko a officiellement atteint les 300 000 vues sur Insta. Voilà. Bravo. Juste sur Insta. Hein. Je parle même pas de TikTok, je parle même pas de d'autres réseaux sociaux. Bon,
voilà. La première grosse occasion du match à la troisième période.
Alors vas-y, explique.
Il y a eu un centre de Cucurella qui a été repoussé par la défense capverdienne.
Hors-jeu.
Signalé hors-jeu. Mais une frappe du coup de Pedri, je crois, entrée de surface, qui est repoussée par le gardien au-dessus des cages. Mais c'est signalé hors-jeu, Cucurella au tout début de l'action du coup.
On a essayé effectivement.
Une super passe de Pedri, encore une fois, toujours lui, encore lui.
Exactement. Très belle claquette hein, du gardien capverdien, même si ça ne servira à rien puisque c'est relancé, c'est hors jeu.
Mais du coup, bravo pour le poste Col Lyoko.
300 000 vues, c'est n'importe quoi. Non, mais ce qui se passe en ce moment, là, depuis notre émission de vendredi où on a donné cette exclusivité mondiale de la saison 5 de Col Lyoko officiellement en écriture et le retour de Thomas Romain, animateur historique qui a créé Col Lyoko aux côtés de Tania Palombo. Voilà. Ça n'a strictement rien à voir avec le football, mais je m'en fous. Voilà, on se lance des fleurs, voilà.
Tu vas nous lancer un petit jingle Code Lyoko à la mi-temps.
Ouais, pourquoi pas, ouais. Allez. Non, je vais pas abuser quand même.
Non, il y a des trucs qui sont mieux.
Toute
quoi.
Cette émission, c'est si jamais parmi vous, fans de football ou gens qui suivent la Coupe du Monde avec nous, vous n'avez pas vu passer ça et que vous êtes fan de Code Lyoko éventuellement, eh bien vous pouvez retrouver tout le podcast de ces deux heures d'émission de ce vendredi soir qu'on avait fait en direct de Vertical Art. Et voilà, c'est génial. Il y a des belles informations et surtout vraiment une très très belle émission avec Jérôme Mouscadet et Sophie de Croisette, respectivement réalisateur, producteur et directrice d'écriture de la série. Et vraiment, c'était un moment hors du temps, et notamment cet after qu'on a passé de 20h à 21h juste après l'émission avec les fans qui s'étaient déplacés de France entière. C'était incroyable.
Ça faut pas le dire.
Pourquoi?
Ah non, non.
De quoi?
Non, généralement, il se passe des trucs dans les afters.
Ah oui, oui. Non, alors là, il a été tout mignon, cet after-là, tout gentil, ouais, tout sympa. Ah non, bon, vraiment, c'était okay, super. Là. Vraiment, donc un super moment, ouais.
Mais ouais.
Voilà, donc j'en ai terminé avec mon truc, ouais. Voilà, mon dos de promo.
Non, mais c'est cool, hein.
C'est
quelqu'un d'autre qui a un moment promo à faire, c'est le moment là.
Ah ouais, non, mais là le Kawaii Campus Club est international. Là, ça y est, t'as des youtubeurs américains qui reprennent le nom de Radio Campus Orléans, qui reprennent Kawaii Campus Club, c'est n'importe quoi. Et c'est marrant, quoi. Je sais, toi, Steven, t'es pas très convaincu par Col du Co. Hein.
Alors, plus que pas convaincu, c'est que j'aime pas ça, mais.
Ouais, t'aimes pas le design, notamment. Tu les trouves moches avec leur grand front.
Oui, non, mais hey, chacun son délire. Après, je juge pas. Il y a visiblement des gens qui aiment ça.
Et ah, bah oui, et beaucoup. Et beaucoup, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Mais ouais, parenthèse en fait, sur Col du Co, on parle de n'importe quoi. Hein. C'est le but de cette série. Un Piètre Évolution Soccer, si vous nous rejoignez. Sur le 88. 3FM, donc c'est la 38e minute, 38 minutes et 45 secondes à notre écran précisément. Et alors que là, on a une tentative de passe en longueur,
oh,
la tête de Cucurella et Ferran Torres, de Cucurella, pardon, et Ferran Torres qui.
C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi.
Ils savent pas jouer.
J'ai tenté Cucurella, hein, c'est pas mal aussi.
Ils savent pas jouer, les Espagnols.
Superbe passe pour le coup. Hein, ouais.
De Rodri.
Ouais, de Rodri. Si c'est pas Pedri, c'est Rodri. Voilà, en plus ça rime. Et la dernière frappe, donc c'est qui? Enfin, la tête, c'est Oyarzabal, c'est ça?
Ouais, c'est Oyarzabal.
Ouais, et donc, très belle claquette de la part du gardien capverdien.
D'ailleurs, en parlant de Cucurella, il vient de signer au Real Madrid.
Ouais.
Et c'est un joueur qui a été formé au FC Barcelone, donc ça fait parler. Et même en mars, il avait déclaré qu'il voulait vraiment pas jouer au Real Madrid. J'ai plus la déclaration, la citation exacte, mais il avait déclaré ça. Et donc, c'est vrai que là, c'est un peu incompréhensible. Il en avait même pas parlé à ses coéquipiers. Ils l'ont appris sur les réseaux sociaux. Actuellement, donc bon.
Et c'est ce que tu me disais en off juste avant le début d'émission, c'est que maintenant, officiellement, on a un joueur du Real Madrid
dans
cette équipe-là, parce que dans la sélection qui était faite, il n'y avait aucun joueur espagnol du Real Madrid qui faisait partie de cette sélection espagnole. C'est quand même assez dingue. Je me demande même si c'est pas une première dans l'histoire de la sélection espagnole. Ouais, voilà.
Pour une grande compétition majeure comme
ça. Bah, Cucurella.
Mais c'est mérité.
Bah, c'est vrai, oui, le Real Madrid a été nul de nul. Bah, justement, si je reprends Mohamed Denis, nul.
Après, historiquement, le Real a toujours moins envoyé de joueurs, je crois, en sélection que par exemple le FC Barcelone, qui eux se construisent majoritairement avec des joueurs formés.
Puis. Bah, c'est vrai que la Masia produit beaucoup plus de joueurs que la Fabrica, donc les deux différents centres de formation du Barça et du Real Madrid. Donc voilà, mais c'est vrai que après l'Espagne a aussi tiré son jeu technique et tactique aussi du Barça, avec le tiki-taka, le football de Johan Cruyff, de Pep Guardiola. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant de joueurs du FC Barcelone. Et dans les grandes heures de l'Espagne, c'est grâce à Iniesta, Xavi, Busquets, tous ces joueurs-là qui sont passés par le Barça, David Villa, Pedro.
Non, mais y a une vraie, ça, c'est vrai que c'est pour les néophytes ou les personnes qui ne connaissent pas vraiment, là il y a une vraie culture du jeu. Et en fait, ça va au-delà même de l'aspect sportif pour Barcelone. En fait, il y a toute cette. Là, j'ai un maillot du Real Madrid sur moi, mais ça ne veut pas dire que je suis supporter du Real Madrid et que je suis supporter du club de Franco. Parce que c'est bien ça.
Ça a commencé comme ça.
Ça a commencé par Franco, qui voulait trouver un club pour. Concurrencer, on va dire, le club de la résistance catalane, on va dire.
Il y a eu beaucoup de corruption à son époque. Hein.
Mais non, en fait, je porte ce maillot historique parce que c'est un joueur que j'aime énormément en flocage qui s'appelle Redondo et qui a été un joueur argentin métronome de cette grande équipe du Real Madrid dont on parle très très peu de la fin des années 90 parce que cette équipe du Real Madrid n'avait pas de grandes superstars contrairement à celles qu'on a connues des Galactiques au début des années 2000. Ici, c'était des joueurs comme Redondo, comme Clarence Seedorf notamment, comme Morientes, Raoul, Davor Suker.
Des sacrés joueurs.
Des sacrés joueurs aussi. Mais c'était pas les superstars galactiques.
Après, les Galactiques n'ont pas forcément marché, donc.
Mais pour en parler, par contre, ça intéressera à mon avis Steven et Sébastien de parler peut-être justement de ce que représente aussi peut-être le FC Barcelone dans cette histoire aussi espagnole, de cette histoire catalane aussi, notamment cette résistance justement au franquisme. Ouais,
moi, ce que je sais, c'est que ce soir, il y a une personne qui regarde pas ce match, c'est Retailleau.
Ah bon, tu penses? Ah oui, c'est vrai qu'il aime pas l'Espagne. C'est
non,
vrai,
il a dit qu'il faut les mettre au banc.
Rappelle un petit peu ce que Retailleau.
J'ai pas la ref là actuellement.
Contre l'équipe d'Espagne. Celle-là, elle est incroyable.
Non,
celle-là.
Alors Bruno Retailleau qui a déclaré qu'il fallait mettre l'Espagne au banc de l'Union Européenne. parce qu'ils ont une politique de gauche, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, de régularisation. Et donc, ce sont les seuls actuellement en France à avoir une politique de vouloir régulariser des travailleurs immigrés. Hein, donc, pas tous les immigrés non plus. Mais du coup, rien que pour ça, c'est déjà trop pour Retailleau. Donc, à mon avis, il ne regarde pas ce match.
L'Espagne qui est assez engagée aussi sur la scène internationale avec,
avec la Palestine.
La Palestine, et ils avaient dit qu'ils boycotteraient la compétition si.
Ils ont boycotté l'Eurovision aussi.
Ils ne sont pas allés à l'Eurovision. Il y a plusieurs pays d'ailleurs comme ça.
Lamine Yamal qui a arboré le maillot de la Palestine lors du défilé du tour avec les trophées qu'ils ont remporté cette saison avec le FC Barcelone, dans la ville de FC Barcelone, lors du Barcelone, du coup, il a arboré son maillot de la Palestine.
Lamine Yamal, la
superstar.
Alors, je ne suis pas sûr que les auditeurs auditrices le voient, mais.
Non, c'est pour vous, Steven et Sébastien.
S'ils regardent le match en même temps qu'ils nous écoutent.
Vous êtes calés, voilà. Donc, pour rappel, justement, pour vous caler, on est actuellement à 43 minutes et 45 maintenant. Voilà. Mais ouais, effectivement, il y a tout ce parcours-là, effectivement. Bruno Retailleau qui a fait polémique avec des propos qui n'ont qu'un sens, en fait,
C'est le propre de Bruno Retailleau. Il était en interview, il fallait qu'il dise quelque chose, encore une énième dinguerie de Bruno Retailleau.
Qui n'a aucun sens encore une fois. Qu'on rappelle aussi en Italie. Qu'est-ce qui se passe avec le
gouvernement Mélanie,
de Giorgia Meloni?
Alors ça c'est très marrant.
Je sais, c'est pas pour refaire les bons samaritains.
C'est pas pareil, mais c'est quand même très marrant étant donné qu'ils sont dans une logique.
Grosse action juste. Ah oui. Un centre qui a été un petit peu détourné et la tentative de frappe, la frappe de gauche.
Le gardien il est on fire. Mais
ce qui écrase complètement sa frappe.
Il écrase sa frappe, mais le gardien.
Comme à son habitude.
Il est très réactif, ouais. Tout à fait.
Mais pour l'Italie, en gros, c'est pour expliquer rapidement, c'est Meloni qui a vendu une politique anti-immigration, mais en fait, les patrons lui ont dit on a besoin de main-d'œuvre, donc il va falloir régulariser. Donc Meloni, contrainte, parce qu'elle s'est soumise aux grands patrons, et du coup, elle est obligée de les suivre et du coup de régulariser. Donc.
C'est assez étonnant le gouvernement d'extrême droite italienne, parce qu'il y a aussi d'autres sujets sur la Palestine aussi, où ils se retrouvent au final à soutenir des fois la Palestine et à s'engager contre Israël, au contraire de beaucoup d'autres pays d'extrême droite.
Ce qui s'était passé avec notamment l'arraisonnement, on dit ça comme ça, ou l'abordage sur le bateau des militants et militantes qui voulaient forcer le blocus à Gaza.
La flottille.
Même Giorgia Meloni a dû justement, s'est exprimé pour dénoncer le traitement inhumain subit les militants et les militantes. Non mais c'est le monde à l'envers.
En fait c'est juste les contraintes quoi. Enfin c'est plus que une volonté de sa part. C'est que il y a un moment quand tu diriges un pays, il y a des réalités qui, surtout quand tu t'inscris dans l'ultralibéralisme, etc. Il y a un moment t'es face à tes propres contradictions.
Alors c'est marrant hein, quand même, mais je me serais jamais attendu à ce qu'on parle de l'Italie, qui n'est pas qualifiée pour cette Coupe du Monde cette série. Mais c'est moi qui ai amené vers l'Italie aussi.
Ils ne sont pas qualifiés non plus en 2022 et en 2018.
Ça fait trois fois de suite.
C'est une prise de position très très forte de la part de l'Italie, parce qu'en 2018, ils décident de boycotter la Russie, qui est une dictature. En 2022, ils décident de ne pas aller non plus au Qatar, qui est une dictature. Et là, ils décident de ne pas partir. En 2026 bravo,
sélection politisée,
on peut que les féliciter de ce choix fort, parce que voilà.
Là t'as tout dit.
Ouais. Ah oui, c'est l'Italie militante en fait les vrais gens de gauche c'est l'Italie.
Ils vont changer leur hymne national bientôt, ils vont chanter la Bella Ciao là.
L'international.
Mais attends, mais rigolez pas en même temps, d'après ce que j'ai entendu aussi, alors je suis pas un spécialiste de l'Italie, mais il semblerait que Giorgia Meloni aussi a un petit peu les mains liées aussi pour pouvoir changer véritablement tout ce qui se passe en Italie. Alors attention, elle fait des dingueries aussi, mais parce que la constitution apparemment italienne, moi c'est ce que j'entends dire, comme elle est héritée de la tradition antifasciste suite à Mussolini, eh bien, elle est extrêmement limitante, entre guillemets, pour aller faire des dingueries de ouf, contrairement à ce que, par exemple, un président en France pourrait faire. C'est-à-dire que là, tu as quand même des trucs dans la Constitution qui ont été faits
par
le général de Gaulle, qui font que si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut-être être un petit peu dangereux.
C'est possible France, que la Constitution italienne, il y ait plein de verrous qui a été instauré. Hein.
Ouais. Moi, c'est ce que j'entendais dire. J'ai pas, encore une fois, je dis aux auditeurs, auditrices, renseignez-vous aussi, parce que j'ai pas étudié la question.
Allez voir les lives de Guillaume Meurice en ce moment, qui est sur Twitch, qui réécrit la Constitution.
Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais,
je connais pas la Constitution italienne, mais j'étais récemment en Italie, et c'est vrai qu'on a l'image, du coup, comme c'est le gouvernement d'extrême droite, on a un peu l'image, je vais dans un pays d'extrême droite, mais quand on est sur place, il y a beaucoup d'affiches dans les rues, de tags et de plein de, de trucs très engagés, des drapeaux, etc., des drapeaux LGBT.
J'étais à Rome en avril aussi. Ouais.
C'est pas du tout l'image qu'on peut avoir quand on voit le gouvernement. Ouais,
quand on voit ça de loin. Et même, je me souviens d'un docu que j'avais regardé sur les campagnes.
Une action là sur la droite, juste, je t'interromps deux petites secondes, un centre et finalement une tête complètement loupée
De Yarzabal.
De Yarzabal, effectivement.
Non, c'était un docu que j'avais regardé. Je sais plus où, mais bon, moi c'est pas important. Sur les campagnes en Italie, et c'est dans les campagnes italiennes, ils sont là. On veut des personnes étrangères, on veut de la diversité, etc.
J'étais... Tout l'inverse des campagnes françaises. Quoi.
Oui. Ouais.
je fais pas du tout une essentialisation, évidemment, par rapport à la ruralité française, mais on a cette France des marges, cette France périphérique dont on parle souvent et qui a été théorisée par beaucoup de géographes et sociologues, sur cette déconnexion totale.
Mais c'était intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on peut penser en Italie, y a quand même des gens dans les campagnes qui disent non, en fait, on a besoin d'une nouvelle jeunesse. On a besoin de diversité.
C'est la mi-temps. Ouais.
Fin de la mi-temps, vas-y Maxime.
La mi-temps, donc zéro partout. On va peut-être faire un petit point stat.
C'était tellement merdique qu'on a parlé de tout sauf de
autre chose. On a vraiment du tout parlé du match.
C'était quand même fou. Faisons peut-être juste un tout petit point stat rapidement après que je vous laisse avec des pauses musicales proposées par notre amie Viviane qui s'est chargée de faire toute la programmation musicale du Piètre Evolution Soccer. On va vous proposer pour la mi-temps des pauses entièrement capverdiennes parce que la musique capverdienne, c'est génial, c'est absolument incroyable et c'est très peu connu. Donc on va vous faire un enchaînement de musique capverdienne. En attendant donc pour les statistiques, on a grimpé quand même. On est à 1,3 expected goals pour les Espagnols, mais zéro but, 70% de possession de balle, on s'y attendait évidemment. Ouais. 12 tirs pour l'équipe d'Espagne et seulement 4 cadrés et 3 tirs seulement pour le Cap-Vert, mais ça on s'attendait aussi à ce qu'il gare le bus et qu'il le match nul, le 0-0, Donc tu penses quand même qu'ils vont
quand même réussir à débloquer ce verrou là parce que c'est vrai que l'Espagne a quand même une grande qualité individuellement et collectivement, donc je pense quand même qu'ils vont réussir à débloquer ce verrou là mais on attend beaucoup plus quand même de l'Espagne et beaucoup plus de tous ces joueurs sur le terrain.
Ouais. Allez, c'est la mi-temps, donc on va se quitter pendant quelques minutes pour nous désaltérer, prendre peut-être quelques petits rafraîchissements et vous laisser aussi vous le temps de vous remettre un peu de vos émotions, le peu d'émotions qu'on a eu pendant cette mi-temps, à savoir vraiment très très peu. Allez, on enchaîne sur cette sélection musicale capverdienne de Viviane. Vous êtes bien sur le 88.3 FM, Radio Campus Orléans. C'est le troisième épisode de notre série Piètre Evolution Soccer, la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, depuis mon canapé.
Cabo Verde, já desesperadinho, mas ainda tem fé e esperança. Mas Deus que está travida pelo mal da passe nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho. Tormento Cabo Verde já espera te mas tem fé esperar. otra vida del manda un pasillo nescanti visto di me nescanti ni tormento ni a fe ni a speranza ed i vai palo ed i vai pa terra grande felicidade. Cabo Verde já espera te. Nesse cantinho triste de mim, nesse cantinho de tormento, minha fé, minha esperança, e na Deus contei, e na Virgem Maria, que está nascendo, e na terra, minha fé, minha esperança. Na Deus contei e na Virgem Maria que tá nascendo e na terra.
Oh, yeah, we need. sem Maria Vieira que abriu noite. Mas que tem problema, portanto, não está consolado. É só isso que engravava. Minha vida em São Paulo.